La ministre française chargée de la lutte contre les discriminations françaises, Aurore Berger, a déclaré hier que les accusations de génocide à Gaza étaient, je cite, une falsification historique. Jean-Yves Camus est historien spécialiste de l'antisémitisme. Il réagit, ma chère Lucie, à votre micro.
Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien spécialiste de l'antisémitisme. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. On voudrait évoquer avec vous une prise de parole qui s'est passée ce matin. Aurore Berger, ministre de l'égalité des chances en France, a expliqué ce matin à France Info, elle a dénoncé un génocide à Gaza. Elle a expliqué que c'était une falsification historique du terme de génocide. Elle a évidemment déploré une situation terrible, mais que ça n'est pas qualifié de génocide. C'est votre avis également ?
C'est absolument mon avis. Ça n'est pas un génocide.
Et donc
ça n'est pas un génocide parce qu'un génocide, un génocide suppose qu'il y ait un plan concerté. Mmh. Un génocide peut être décidé en secret. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Shoah. Mais pour autant que ce plan soit élaboré en secret, il existe. Et il prévoit à la fois la fin, c'est-à-dire l'extermination totale, et les moyens. Et là, bien évidemment, il n'y a pas ces faits constitutifs de génocide.
Et donc elle explique que justement ces accusations, cette qualification de génocide, elle vient s'ajouter aux nombreux visages que prend l'antisémitisme aujourd'hui et vient finalement à l'encontre des valeurs démocratiques que défendent la France et un certain nombre de démocraties d'Europe. C'est votre avis ?
C'est absolument mon avis. Non seulement c'est un terme qui va contre la démocratie, mais c'est aussi un terme qui va contre la vérité historique. Parce que toutes les situations semblables à celles qui existent à Gaza, et il en existe un certain nombre de par le monde, que les médias n'évoquent pas, constituent des génocides, alors à ce moment-là, on a à revoir la définition du génocide. Si vous voulez. Il y a des termes qui sont plus appropriés, je me garderai de qualifier la situation à Gaza, ça n'est pas mon champ d'expertise, donc je ne le ferai pas, mais si vous voulez, un génocide, ça n'est pas un crime de guerre, un génocide, ça n'est pas, une action militaire qui fait de nombreuses victimes, un génocide, ça n'est pas des bombardements massifs qui répondent à un objectif militaire défini, c'est une entreprise d'extermination planifiée sur la base de la race, de l'ethnie ou de la religion des personnes qui sont victimes.
Et j'imagine que c'est une avancée alors que une personnalité publique, une politique en vue s'empare de et prenne cette prise de parole publique.
Oui, c'est évidemment c'est une avancée. Personne n'a jamais cru qu'Aurore Berger ait des sentiments différents. Mmh. Le problème, c'est que ou bien la diplomatie française fonctionne comme une île à l'intérieur du gouvernement, et c'est extrêmement fâcheux, ou bien alors il y a une parole qui n'est pas claire. Celle d'Aurore Berger d'un côté, d'un certain nombre de ses collègues, et puis de l'autre côté, celle d'une diplomatie qui n'arrête pas de désigner Israël et son gouvernement comme étant les seuls responsables de ce qui se passe à Gaza, et ce, non pas ces derniers jours et ces dernières semaines, mais pratiquement depuis le début.
Okay.
Depuis le début, c'est-à-dire qu'on a eu, évidemment, sous le coup de l'émotion du 7 octobre, une sorte d'unanimité, mais combien de temps a-t-elle duré cette unanimité ? Sitôt que la riposte militaire israélienne a été déclenchée, elle a été mise en cause, non pas seulement dans la façon dont elle se déroulait, mais dans sa raison d'être même. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu ? Il aurait fallu ne pas répondre. Il aurait fallu trouver un moyen plus soft de répondre. Il aurait fallu confier à la communauté internationale, et naturellement en particulier à la France, le soin de déterminer quelle était la bonne réponse. Mais tous ces gens-là ne vivent pas sur place.
Alors, Aurore Béget, elle a également, en fait, elle parlait dans le cadre de cette intervention, elle parlait de cette proposition de loi qui a été portée par Caroline Yadan, députée des Français de l'étranger, visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Elle a justement alerté sur les nouveaux visages que prenait un antisémitisme de plus en plus décomplexé, virulent, violent. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre cette tendance-là sociétale ?
Alors, ça nous amène à la question de savoir si on peut et si on doit légiférer sur encore davantage sur la question de l'antisémitisme, alors qu'existent déjà des lois qui sont très imparfaitement appliquées. C'est-à-dire que la loi Guesso en particulier, qui a été votée en 1990 pour punir le négationnisme, a donné lieu à un nombre de poursuites judiciaires tellement faible et à un nombre de condamnations encore plus faible, et ces condamnations sont généralement des condamnations à des amendes, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont passé un jour en prison de crime contre l'humanité se compte sur les doigts d'une main, il y a à peine. Si on n'a pas été capable d'appliquer ça, je ne suis pas certain qu'on soit capable d'appliquer une loi qui, elle, aura un champ encore plus large. La seconde chose à voir, c'est si jamais le tollé que ne manquera pas de susciter la proposition de Caroline Yadan est politiquement supportable. C'est-à-dire si le coût prévisible qu'il entraînera pour la communauté juive vaut le vote assez symbolique de ce texte. J'aimerais que ce ne soit pas symbolique, si vous voulez. Mais encore une fois, on ne maîtrise pas les décisions des magistrats. On ne maîtrise pas les décisions des magistrats. Si jamais les magistrats ne suivent pas, on aura un texte en plus, on aura un coût politique élevé, mais, et au fond rien. D'autant plus rien, pas grand-chose, que l'essentiel de ce nouvel antisémitisme se déroule aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que la régulation des réseaux sociaux est extrêmement compliquée puisque les acteurs ne coopèrent pas. Les acteurs ne coopèrent pas, ni TikTok, ni Telegram, ni évidemment X, et pas davantage les autres d'ailleurs, sauf exception très très notable. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on écope l'océan à la petite cuillère, faute de possibilité de convaincre les acteurs du numérique de véritablement, passez-moi l'expression, éjecter des contenus et éjecter leurs auteurs. Donc...
de réguler finalement en fait les flux de contenu, de lutter en fait contre la désinformation finalement.
C'est pas de la désinformation, c'est de la politique en fait. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement de la désinformation dans la mesure où la personne qui écrit un contenu haineux est mal informée et raconte un petit peu n'importe quoi parce qu'il a envie de passer ses humeurs en écrivant un post. Mais il y a un objectif politique derrière et on voit bien qu'il existe des forces politiques en France, comme d'ailleurs ailleurs, qui se servent de ce langage jusque dans les travées de l'Assemblée nationale, jusque dans leurs meetings politiques. Ils le font en pleine conscience. Ce n'est pas simplement de la désinformation. Malheureusement, ces gens sont convaincus. Ils sont en fait convaincus de quoi ? Ils sont convaincus que le peuple juif est un peuple coupable. Hier, il était coupable de délicie selon la théologie chrétienne. Aujourd'hui, que l'Église catholique en particulier a répudié cet enseignement-là, eh bien, il est coupable de génocide. C'est une croyance qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le croyait. On pensait finalement que la disparition de cette théologie avait un petit peu fait le ménage dans les rangs des antisémites. Mais en fait, cette théologie anti-juive, même chez des gens qui se réclament aujourd'hui de l'extrême gauche, vous savez, il y a très souvent des séquelles, si j'ose dire, soit d'une éducation, soit d'une mentalité qui persiste et qui, de toute façon, nous désigne comme étant d'éternels coupables. Alors, c'est vrai qu'il n'y a de grâce que pour les juifs morts, finalement. Et que pour les juifs vivants, alors là, il n'y a absolument pas même pas de droit à l'explication. Vous êtes coupable d'office.
Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que cette proposition de loi de Caroline Yannan, où elle estime que l'accusation abusive de génocide, en fait, elle participe à cette augmentation exponentielle d'actes antisémites. Alors, c'est un vœu pieux aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui.
Ce sera très difficile à faire passer. Ce sera très difficile à faire passer parce qu'encore une fois, la communauté juive, les juifs en général, vont être accusés d'être ceux qui censurent. C'est-à-dire que non seulement ils sont criminels, mais encore ils cherchent à cacher leurs crimes ou à interdire qu'on les critique. Et c'est là que le coût politique risque d'être extrêmement élevé. Je ne dis pas que c'est une proposition qu'il faut à tout prix repousser tant qu'elle n'est pas écrite, tant que les juristes ne l'ont pas regardée et qu'ils essayent de pondre quelque chose. Mais je vois d'ici le tollé qui sera bien supérieur, à mon avis, à celui que j'ai connu en 1990 lorsque la loi Guesso a été votée et où, bon, effectivement, comme il s'agissait de Florisson et de ses acolytes, la majorité des Français se disaient, bon, quand même, ce sont des gens qui sont des négationnistes purs et simples, ce sont des marginaux de la politique. Ça n'avait par ailleurs pas grand-chose à voir avec les événements moyen-orientaux, et même pas du tout. Donc, effectivement, cette loi a fini par être assez correctement acceptée. Mais là, compte tenu, j'allais dire, du nombre de mobilisations militantes que nous avons sur le sujet, du nombre, encore une fois, de parlementaires, d'élus locaux, d'élus européens qui se sont saisis du sujet et qui l'ont porté dans le débat politique, ça risque d'être un débat extrêmement houleux. Regardons d'abord les propositions de loi, la proposition de loi rédigée, regardée par les services de l'Assemblée nationale, et puis voyons ce qu'il y a dedans.
Eh bien, je vous remercie. On continuera à suivre chez Radio Judaïka ce dossier. De toute manière, je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'antisémitisme. Merci beaucoup, Jean-Yves Camus, d'avoir accepté notre invitation au
Merci
pied levé.
À vous.
Et à très bientôt.
À très vite. Au revoir.